Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie où pour cette semaine spéciale Bac Blanc, nous repassons l'épreuve tant redoutée mais si fascinante de philosophie. Comment expliquer un texte? Comment, à partir d'une question, élaborer une dissertation? Qu'est-ce qu'une bonne problématique? Ou encore, faut-il avoir lu tout Platon pour avoir la moyenne au bac? Telles sont les questions cruciales que se pose chaque élève de terminale ou peut-être chacun d'entre vous à quelques mois de l'épreuve de philosophie. Pas de panique pour y répondre, quatre professeurs jouent le jeu cette semaine à ce micro et plongent sur des sujets de leur choix. Lundi, c'est ainsi un extrait du Capital de Marx qui nous a été expliqué. Hier, mardi, c'est le sujet « La relation avec autrui est-elle nécessairement conflictuelle ?» sur lequel nous nous sommes penchés. Et demain, nous nous demanderons « Peut-on soutenir que la vérité n'existe pas ?» Mais dès maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Laveran, professeure au lycée Pierre de Coubertin à Calais. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous avez justement choisi d'expliquer pour nous un extrait du Gorgias de Platon, extrait que l'on va tout de suite écouter. Alors c'est un dialogue entre Socrate et Calliclès, interprété respectivement par Olivier Martineau et Romain de Becdelièvre.
Mais dis-moi encore une chose. Ce dont tu parles, c'est d'avoir faim et de manger quand on a faim, n'est-ce pas?
Oui.
Et aussi d'avoir soif et de boire quand on a soif.
Oui, mais surtout ce dont je parle, c'est de vivre dans la jouissance. D'éprouver toutes les formes de désir et de les assouvir. Voilà, c'est cela la vie heureuse.
C'est bien, très cher. Tu t'en tiens à ce que tu as dit d'abord et ne ressens pas la moindre honte. Mais alors, il semble que moi non plus je n'ai pas à me sentir gêné. Aussi, pour commencer, réponds-moi. Suppose que quelque chose démange, qu'on ait envie de se gratter, qu'on puisse se gratter autant qu'on veut et qu'on passe tout son temps à se gratter. Est-ce là le bonheur de la vie ?
Que tu es extravagant, Socrate. En fait, tu es un démagogue, un orateur de foule.
C'est pour cela, Calliclès, que j'ai choqué Polos et Gorgias, je les ai fait se sentir gênés. Mais toi, tu ne seras pas choqué. Tu n'auras même pas honte, car tu es un homme courageux. Alors, réponds et c'est tout.
Eh bien, je déclare que même la vie où on se gratte comme cela est une vie agréable.
Et si c'est une vie agréable, c'est donc aussi une vie heureuse.
Oui, absolument.
Si on se gratte la tête seulement, ou faut-il que je te demande tout ce qu'on peut se gratter d'autre? Regarde, Calliclès, que répondras-tu quand on te demandera si après la tête on peut se gratter tout le reste? Bref, pour en venir au principal avec ce genre de saleté, dis-moi, la vie des êtres obscènes n'est-elle pas une vie terrible, laide, misérable? De ces êtres, oseras-tu dire qu'ils sont heureux, sous la seule condition qu'ils possèdent tout ce qu'ils désirent?
Mais n'as-tu pas honte, Socrate, de mener notre discussion vers ce genre d'horreur?
Parce que c'est moi qui l'ai poussé là. Ô noble individu, n'est-ce pas plutôt celui qui affirme sans nuance que les hommes qui éprouvent la jouissance, de quelque façon qu'ils jouissent, sont des hommes heureux? N'est-ce pas plutôt celui qui ne peut pas distinguer quels sont les plaisirs bons et quels sont les mauvais?
Sophie Laveran, la première chose quand même qu'un élève peut remarquer en tombant sur ce texte, c'est quand même qu'il est très drôle. Ce dialogue entre Calliclès et Socrate, cet exemple de l'homme qui se gratte, la honte, l'indignité, l'indignation, est-ce que c'est d'abord la première chose que peut remarquer un élève ?
Oui, on peut le remarquer déjà à la lecture et puis c'est important d'en profiter parce que le plaisir qu'on prend à lire un texte, ça se ressent aussi dans une copie. Donc il faut pas hésiter aussi à s'appuyer sur cette jubilation qu'on peut éprouver face à un texte. Alors après, évidemment, il faut pas en rester là et puis surtout, il faut pas confondre l'analyse philosophique de l'analyse littéraire. Parce qu'effectivement, si on avait à étudier ce texte en littérature, on étudierait les effets comiques d'un point de vue stylistique. Or ici, il s'agit vraiment de mettre l'accent sur le sens et sur le concept. Donc même si on peut tout à fait souligner les aspects déstabilisants même de ce texte, il faut pas par exemple consacrer tout un paragraphe aux comiques, ce serait pas forcément l'idée dans une explication philosophique.
En tout cas, la première chose qu'on peut remarquer également, c'était ce dialogue. L'humour est permise aussi parce qu'il est question d'un dialogue. On a d'un côté Calliclès qui soutient la thèse que le bonheur, c'est jouir de tout. Et d'un autre côté, Socrate, sceptique, ironique, qui met en doute cette thèse. Alors, comment l'élève va procéder face à ce dialogue sans prendre parti, ni pour l'un, ni pour l'autre? Parce qu'il est assez facile de se reconnaître dans Calliclès.
Oui, alors, évidemment, d'un côté, ça peut sembler difficile parce qu'il y a... non pas une thèse, mais deux. Hein. Donc, pour dégager l'idée principale du texte, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, même si on n'est pas obligé de dégager forcément une thèse. On peut très bien tout à fait souligner justement la confrontation des deux. Et puis, j'aurais tendance à dire que d'un autre côté, ça facilite la problématisation, puisque d'une certaine manière, les personnages la font presque pour nous. Donc, pour d'emblée rentrer dans le problème et voir quelles sont les données de la discussion, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer.
Alors, quel est ce problème? Quelles sont les deux thèses qui s'affrontent entre Calliclès et Socrate, à partir desquelles vous allez produire une problématique? Et est-ce d'ailleurs la première chose sur laquelle doit se ruer un élève? Est-ce que avant ça, il ne doit pas étudier les mouvements du texte, les exemples, ou tout de suite, quand même, il doit identifier la thèse et peut-être avoir déjà une sorte de sentiment, d'intuition, en fait, du problème qui apparaît?
Je pense qu'il ne faut pas absolument se dire il faut tout de suite que je vois la thèse, le problème, etc. Déjà, l'épreuve, il faut rappeler qu'elle est, c'est une épreuve de 4 heures. On a quand même du temps. Et ce temps, il faut se le donner. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, en tout cas, ce que je vois chez mes élèves, c'est peut-être le cas chez les autres élèves, je pense que c'est plutôt une tendance générale, c'est que généralement, on a plus de difficultés à occuper le temps qu'à resserrer le temps. C'est-à-dire que souvent, les élèves, ils ont fini au bout de 2 heures, de 3 heures. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et le moment de la lecture, ou plutôt des lectures, est très important. C'est-à-dire qu'il faut procéder à une lecture très minutieuse du texte. Et la thèse, elle n'est pas forcément toujours évidente à la première lecture, ni même à la deuxième. Et donc, ce que je conseille, moi, de faire à mes élèves, c'est d'abord donc d'identifier le thème. Donc, le thème, c'est souvent soit un concept tout seul, soit plus souvent... une relation entre plusieurs concepts. Alors des concepts, des notions du programme, ou alors des notions qui gravitent autour des notions du programme. Donc ici, par exemple, le thème, ça apparaît assez évident, c'est le bonheur et sa relation avec le désir, le plaisir. Hein, ce sont les concepts principaux de cette discussion. Et après, une fois qu'on a identifié ce thème, il faut d'abord regarder, faire comme une sorte de liste d'énoncés. Hein, quels sont tous les énoncés du texte? Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Si on, un peu comme si on voulait écrire un squelette de toutes les idées qu'il y a dans le texte, et ensuite essayer de voir comment ces idées s'enchaînent, pourquoi elles sont dans cet ordre, etc. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être arriver à la structure un petit peu argumentative. Et au milieu de ce travail, souvent, on a beaucoup plus de facilité à identifier l'idée principale, soit parce qu'elle est parmi les énoncés qu'on a relevés, soit parce qu'elle est ce qui rassemble tous les énoncés qu'on a relevés.
C'est une question que j'allais vous poser. Vous avez parlé de lecture. C'était très intéressant parce que finalement, c'est assez rassurant pour un élève d'avoir un texte sur lequel se reposer, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire oui. Sur lesquels s'appuyer, mais aussi peut-être être un peu plus paresseux ou se rassurer, se réconforter. Et l'idée quand même de bien lire un texte, qu'est-ce que ça implique? À quel moment, en fait, on est sûr d'avoir mis le doigt sur vraiment ce qui poser problème, sur cette fameuse thèse dont vous parliez au milieu de ces énoncés, qui finalement peuvent paraître tout autant les uns que les autres importants?
Alors en fait, là dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que lire un texte? Lire un texte, c'est d'abord essayer d'en comprendre le sens, comme quand on lit et qu'on essaye de se représenter qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement. Ça, c'est la première lecture. Mais la lecture, c'est aussi une lecture philosophique. Et donc, une lecture philosophique, c'est une lecture qui interroge. D'ailleurs, Socrate est notre modèle à tous, puisque c'est sa méthode, l'interrogation. Et d'abord, il faut qu'on se pose des questions sur le texte, qu'on enquête un peu, qu'on considère le texte comme un mystère et qui nous donne des indices. Et évidemment, plus la démarche est scientifique, entre guillemets, dans ce travail de lecture, et meilleure sera l'explication. C'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses sur le texte, mais il faut essayer de la mettre à l'épreuve du texte. C'est-à-dire que si je fais l'hypothèse, par exemple, que, je ne sais pas moi, la thèse de ce texte, c'est que pour être heureux, il faut s'adonner à tous les plaisirs. Bon, ben, je regarde, est-ce que ça marche? Quels indices j'ai? Est-ce qu'il n'y a pas des indices qui vont à l'encontre de ça? Si j'ai trop d'indices qui me montrent que ça ne marche pas, c'est que certainement je n'ai pas assez bien formulé la thèse, hein, ou l'idée directrice. Voilà. Donc,
moi, la thèse, par exemple, que j'ai repérée, c'est celle que propose Calliclès. Alors, peut-être que, du coup, j'ai moins vu celle de Socrate, qui n'apparaît peut-être pas de manière aussi frappante. En tout cas, c'est évidemment celle qui apparaît dans la première partie. Vivre dans la jouissance, éprouver toutes les formes de désir et de les assouvir, c'est cela la vie heureuse. Donc, dans l'introduction, si je ne me trompe pas sur cette thèse, vous allez me dire... Je vais pouvoir dire que le thème, c'est le bonheur, que la thèse convoquée, proposée, soutenue par Calliclès, c'est celle-ci. La vie heureuse, c'est de jouir de tous les plaisirs. Et à partir de là, est-ce que je vais pouvoir problématiser en disant est-ce que le bonheur consiste seulement et uniquement dans le fait de jouir des plaisirs?
C'est une bonne démarche. De toute façon, là, c'est un texte très particulier. Parce que finalement, effectivement, la thèse de Socrate n'apparaît que discrètement à la fin du texte. C'est-à-dire que ce qui est exposé dans ce texte, c'est la thèse de Calliclès. Et elle est non seulement exposée, mais aussi discutée. Et c'est pour ça qu'il faut parfois distinguer dans les textes la thèse de l'objectif du texte. Parce qu'en fait, l'objectif de ce texte, c'est plutôt de discuter cette thèse. Et effectivement, c'est un texte qui est beaucoup plus critique, polémique, que doctrinale, on pourrait dire. C'est-à-dire que là, Platon n'est pas en train de poser une thèse et puis de déployer tous les arguments.
C'est ça d'ailleurs qui est déconcertant,
oui, dans,
face à ce texte.
Mais ça fait partie du travail philosophique, de savoir critiquer, hein, et c'est d'ailleurs tout le sel de ce texte, à mon sens, hein. Donc ici, c'est une très bonne illustration de la démarche socratique comme méthode de questionnement, de remise en cause, hein, d'examen des idées, et là, elle est particulièrement radicale. Alors, pour problématiser, oui, on peut partir d'une question, hein, celle que vous posiez, à savoir, effectivement, hein, qu'est-ce qu'une vie heureuse? Quelle place ont le plaisir et le désir dans cette vie heureuse? Ça engage la définition du bonheur. Et effectivement, l'idée que défend Calliclès, c'est que le bonheur consiste à assouvir ses désirs, à rechercher, à éprouver toutes les formes de plaisir. Et d'ailleurs, cette thèse, elle est très compatible avec l'idée du sens commun sur le bonheur. Hein, il peut sembler logique, à première vue, d'associer les notions de satisfaction, de plaisir, à la notion de bonheur. Hein. Et pourtant, Socrate, lui, remet en question cette définition. Et donc, là, vous voyez, c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire, le problème ne consiste pas seulement dans une question, mais dans la présentation d'une tension, d'un paradoxe, de quelque chose qui se discute autour de cette question. Et donc ici, Socrate interroge Calliclès et lui pose en fait finalement cette question. Celui qui réalise ses désirs est-il nécessairement heureux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères, hein, dans la recherche du bonheur qui doivent intervenir, qui peuvent intervenir? Et donc là, on a un thème assez classique, c'est une question, canonique presque de l'histoire de la philosophie. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, et ça aussi c'est important de le souligner, et c'est ça qui est important dans une bonne explication de texte, c'est de montrer que même si la question, elle est pas tellement déroutante, le traitement de cette question, lui, il est très original dans ce texte. Et c'est notamment cette image de l'homme qui se gratte, qui va arriver, hein, comme point d'achoppement, finalement, pour critiquer la thèse de l'hédonisme.
Alors, peut songer au mal qui nous peut arriver, songeant seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui-même qu'elle vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu deux personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles.
Sophie Lavrant, un autre exemple, une autre figure d'un hédoniste, c'est Don Juan. On vient de l'entendre dans une adaptation de Molière, 1665, je rappelle la date de cette pièce de théâtre. Donc c'est une autre figure d'un hédoniste que celui qu'est Calliclès. Est-ce qu'un élève de terminale peut convoquer pour peut-être interroger le type d'hédoniste qu'est Calliclès? Est-ce qu'il peut convoquer ce Don Juan, par exemple, pour dire, voilà, Don Juan, il va parler de plaisir amoureux ou même de plaisir un petit peu pervers, alors que dans cette première partie du texte, ce dont il est question d'abord, c'est d'avoir soif, de boire quand on a soif. C'est ça d'abord le plaisir dont parle Calliclès, avant de parler d'un plaisir amoureux et de jouissance charnelle ou peut-être un peu perverse comme Don Juan.
Alors... Je pense que l'exemple de Don Juan serait intéressant parce que il faut remarquer que ce n'est pas Calliclès qui parle de avoir faim et avoir soif, c'est Socrate au départ. Et Calliclès lui répond, ben oui, bien sûr, le plaisir de manger, le plaisir de boire, ça rentre dans la définition des plaisirs. Mais Calliclès, lui, d'ailleurs, ça l'agace un petit peu, hein, il lui répond, hein, oui, mais surtout, ce dont je parle, c'est de vivre dans la jouissance, d'éprouver toutes les formes de désir et de les assouvir. Donc, il ne s'agit pas seulement de manger et de boire. Et puis d'ailleurs, bon, après, ça, c'est toujours l'équilibre à trouver entre la connaissance qu'on a des œuvres, et puis la culture qu'on a, et puis l'explication du texte. Mais par exemple, si on connaît un tout petit peu le dialogue du Gorgias, on peut tout à fait discrètement, bien sûr, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer un autre texte, il s'agit d'expliquer ce texte, mais on peut rappeler que la figure de jouissance par excellence pour Calliclès, c'est la jouissance de l'homme politique qui jouit de sa domination, de l'orateur qui mesure son pouvoir sur les foules, qui peut... Par la rhétorique, hein, notamment, par son pouvoir de persuader, soumettre les autres à sa volonté. Donc, la figure de Don Juan, c'est pas tout à fait la même, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, le point commun, c'est que la jouissance, dans les deux cas, n'est pas articulée à la question de la morale. C'est-à-dire que la jouissance vaut pour elle-même et la question morale apparaît comme secondaire, voire peut-être le fait même d'aller à l'encontre de la morale pourrait participer à la jouissance. Donc c'est pas du tout un contresens. En revanche, si j'avais un élève devant moi, je lui dirais, bon, c'est très bien de faire le lien avec des choses qu'on connaît, mais il ne faut pas écrire, je sais pas, 15 lignes sur Don Juan et puis oublier d'expliquer le texte.
Enfin. Néanmoins, ce que ça permet, en tout cas Don Juan convoqué de cette manière-là, c'est aussi d'interroger non pas seulement quel type d'hédonisme défend Calliclès, mais c'est aussi de voir jusqu'où d'interroger en fait sa définition du bonheur. C'est-à-dire que de dire que le bonheur recouvre tout ce qui est objet de jouissance, finalement, pose le problème de la délimitation du bonheur ou des objets qui sont susceptibles de produire du bonheur. Est-ce que dès que je bois un verre d'eau, est-ce que finalement je peux dire que je suis heureuse ou est-ce que j'ai assouvi un désir? Et ça, au moins, Don Juan permet peut-être de poser la question de la délimitation du champ. Est-ce que c'est seulement amoureux? Est-ce que c'est seulement quand on a du pouvoir sur l'autre? Est-ce que c'est seulement quand on assouvit des besoins physiologiques? Est-ce que au moins
ça nous permet d'interroger le texte de cette manière-là. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le travail que doit faire un élève dans son explication face à cette première partie ?
Oui, oui, bien sûr. C'est évident qu'on peut se poser des questions sur le texte et on peut même, je dirais, les formuler à l'écrit. Du moment qu'on s'attache à essayer d'y donner une réponse. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas balancer des questions comme ça sans souci de les traiter. Mais on peut tout à fait s'interroger, même faire des hypothèses en disant peut-être que là, Caliclas rejoint Don Juan. Si on ne connaît pas, par exemple, le reste du Gorgias, bon, il n'y a rien dans le texte qui indique que son modèle de jouissance, c'est une forme de domination politique. Bon, c'est pas du tout hors sujet. Bien sûr, ça peut intervenir. D'autant que, effectivement, et c'est un point important du texte, Caliclas ne donne aucune restriction, lui, à l'assouvissement des désirs et à la jouissance. C'est-à-dire que pour lui, le bonheur s'identifie complètement à la jouissance et par conséquent, il n'y a pas à délimiter les objets du plaisir, même si, la seule indication qu'on a dans le texte, c'est que plus il y en a, et plus il y en a de formes aussi, mieux c'est. Mais d'une certaine manière, ça reste assez, assez flou, hein, cette thèse, en tout cas dans ce passage-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément de quoi parle Caliclas. Donc là, on peut se permettre des hypothèses et montrer que justement, c'est un élément important de...
On peut interroger l'élève, va interroger le texte en faisant des hypothèses. Alors, qu'est-ce que, par exemple, on pourrait très bien mettre dans sa copie? Qu'est-ce que Caliclas entend ici, du coup, par le fait de jouir ? Est-ce que c'est le fait de boire ? Est-ce que c'est le fait de manger ? Est-ce que c'est le fait de faire l'amour ? Est-ce que c'est le fait d'acheter ce dont on a envie ? Ça, par exemple, ce sera des choses que pourra développer l'élève dans sa copie.
Absolument. D'autant que ce sont des questions qui, en général, ont été abordées en cours. La question du rapport entre le désir et son objet, hein, justement par opposition au besoin. C'est-à-dire qu'une des distinctions entre le besoin et le plaisir, c'est que le besoin, il a un objet délimité, il s'assouvit de manière, on va dire, facile. Hein. Effectivement, si j'ai faim, je mange, mon besoin est satisfait et, d'une certaine manière, il y a une sorte de d'arrêt du besoin immédiatement, il y a la satiété. Alors que une des caractéristiques du désir, c'est d'être insatiable. C'est de ne jamais s'arrêter sur un objet et de se renouveler en permanence, de changer d'objet et d'ailleurs, même pour un objet, hein, de ne jamais en faire le tour, de ne jamais en être complètement satisfait. D'ailleurs, la figure de Don Juan, en ce sens, elle est parfaitement légitime ici. Enfin, elle est intéressante parce qu'effectivement, Don Juan, c'est celui dont aucune femme, hein, ne parvient à étancher la soif de conquête. Donc, effectivement, ça aussi, c'est un élément de méthode qu'il est important de rappeler aux élèves. C'est que, oui, ils étudient un texte que sans doute ils n'ont jamais rencontré, mais pour autant, leur cours de philo, il reste pertinent et ça reste leur outil pour... expliquer le texte. Donc, par exemple, rappeler la définition du désir, rappeler la définition du bonheur, montrer comment dans ce texte ces définitions, enfin, leur rapport est mis en jeu, et puis éventuellement s'appuyer sur leurs connaissances pour donner des explications, c'est tout à fait bienvenu.
On entend dans ce premier temps du texte le terme de vie heureuse. Il n'y a pas en tant que tel le terme de bonheur, mais enfin on l'a très vite décelé. Ça revient à peu près au même. Puis juste après que Caliclas ait dit que la vie heureuse c'était de jouir de tout, d'éprouver toutes les formes de désir et les assouvir, Socrate lui dit « Ne ressens-tu pas la moindre honte ?» Très intéressant cette apparition de la thématique de la honte, parce que dans bonheur il y a bon. Il y a bien, et effectivement, éprouver toutes sortes de plaisirs pose un problème moral qui met en jeu la honte.
Absolument. Et effectivement, hein, c'est intéressant parce que ce mot de honte va revenir plusieurs fois dans le texte. Et ça pourrait paraître un petit détail, mais justement, c'est ce qui fera un peu la différence entre une explication convenable et puis une bonne explication, c'est de souligner ce détail et d'essayer de se demander justement, mais pourquoi on reparle de honte, etc. Parce qu'effectivement, ce qu'il y a à l'horizon de cette discussion, c'est la question morale. Et ici, l'hédonisme de Caliclas, on pourrait dire que c'est un hédonisme décomplexé, c'est-à-dire qui prétend assumer Le fait que, justement, il peut envoyer promener la morale et que le plaisir avant tout, la jouissance avant tout. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Socrate dit « Bon, mais très bien, dans ce cas-là, si tu ne te sens pas gêné, moi non plus, je vais pas me sentir gêné. » Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire basculer la discussion, puisque jusqu'à présent, on était dans... On va dire un petit train-train.
Un petit peu provoquant quand même de la part de Calliclès.
Oui, voilà. Mais on restait encore dans les codes du dialogue socratique avec un interlocuteur un peu impertinent et Socrate qui garde la mesure. Mais là, avec cette histoire de honte, là, on va voir que Socrate, lui, va radicalement changer d'attitude.
Et surtout avec cette histoire, juste après,
de l'homme qui se gratte. Voilà.
De quoi souffrez-vous ?
Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné,
oui.
Eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici.
Oui.
Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille.
Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Oui. Désignez-moi exactement l'endroit.
Par ici.
Par ici, oui. Et où ça, par ici?
Là.
Oui.
Ah, peut-être bien là. Entre les deux, quoi.
Entre les deux.
Oui.
Juste entre les deux.
Aussi, pour commencer, réponds-moi. Suppose que quelque chose démange, qu'on ait envie de se gratter, qu'on puisse se gratter autant qu'on veut et qu'on passe tout son temps à se gratter. Est-ce là le bonheur de la vie ?
Que tu es extravagant, Socrate. En fait, tu es un démagogue, un orateur de foule.
C'est pour cela, Calliclès, que j'ai choqué Polos et Gorgias, je les ai fait se sentir gênés. Mais toi, tu ne seras pas choqué, tu n'auras même pas honte, car tu es un homme courageux. Alors, réponds et c'est tout.
Eh bien, je déclare que même la vie où on se gratte comme cela est une vie agréable.
Et si c'est une vie agréable, c'est donc aussi une vie heureuse.
Oui, absolument.
Si on se gratte la tête seulement, ou faut-il que je te demande tout ce qu'on peut se gratter d'autre ? Regarde, Calliclès, que répondras-tu quand on te demandera si après la tête on peut se gratter tout le reste ? Bref, pour en venir au principal avec ce genre de saleté, dis-moi, la vie des êtres obscènes n'est-elle pas une vie terrible, laide, misérable ? De ces êtres, oseras-tu dire qu'ils sont heureux, sous la seule condition qu'ils possèdent tout ce qu'ils désirent ?
De Dr Knock, interprété par le génial Louis Jouvet, qui demande si ça gratouille ou si ça chatouille, jusqu'à Platon, Socrate, Calliclès, ou inversement, on va dire, avec cet exemple de l'homme qui se gratte, exemple frappant, exemple que l'élève peut exploiter pas seulement pour en souligner le côté humoristique, mais surtout pour en souligner la dimension philosophique, à savoir que là, Socrate pousse la thèse de Calliclès dans ses retranchements.
Exactement. C'est d'ailleurs un des points importants de cet exercice. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre à jour le sens du texte, bien sûr qu'il s'agit de comprendre ce qui se dit, mais aussi de montrer l'originalité, l'intérêt, la portée philosophique de ce qui est en train d'être dit. C'est-à-dire de montrer que finalement, sur une question importante, ou pas importante, peu importe, sur une question philosophique, l'auteur nous propose, nous donne à penser, nous propose des idées, des exemples qui vont nous faire avancer la réflexion. Donc là, effectivement, cet exemple de l'homme qui se gratte, c'est un exemple très insolite, pour pas dire complètement, inattendu,
qu'on retrouve pas ailleurs d'ailleurs. Enfin,
oui.
D'ailleurs, c'est souvent, en fait, c'est très étonnant parce que Platon, on attend un certain classicisme, une certaine rigueur, et finalement, c'est peut-être dans ces dialogues qu'on le trouve le plus de choses, le plus d'images insolites
Oui. Et puis
quand même l'essence du poil, par exemple aussi.
Oui, effectivement, ouais, ou la définition du pêcheur à la ligne.
Voilà.
Mais effectivement, là, c'est un exemple qui est insolite, donc qui est marquant, mais c'est aussi un exemple qui est clair, vraiment, dans la manière dont il est analysé, les enjeux, en fait, de l'opposition entre Socrate et Calliclès. D'abord, effectivement, la première chose qu'on peut voir, c'est le caractère provocateur, extravagant, hein, comme dit Callicles, de cet exemple qui a introduit donc la rupture de ton dont on a parlé. Évidemment, parler de démangeaison, hein, de l'homme qui se gratte la tête et tout le reste, hein, c'est assez inattendu et puis ça a des effets immédiats. C'est-à-dire que Calliclès, il est déstabilisé, il est choqué par l'audace de Socrate, de la vulgarité de ses allusions, hein, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a quand même l'image de la masturbation, il y a des images obscènes qui viennent.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Socrate, hein, oui. Ces êtres obscènes.
Oui, absolument, donc il n'y a pas la moindre ambiguïté. Alors peut-être qu'un élève peut se sentir gêné de le dire explicitement, mais...
Ou être dans le déni, d'ailleurs, de cette image.
Tout à fait. Mais là, il ne faut pas se sentir gêné, il faut rester dans les limites de ce qu'on peut écrire, mais il faut pas hésiter à appeler un chat un chat. Hein. C'est précisément de ça qu'il parle. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça illustre la dimension provocatrice de la démarche philosophique en général, qui s'attaque aux préjugés, ça, normalement on commence hein, le cours de philosophie comme ça, qui ne craint pas de heurter la pensée, et ça peut être reçu d'ailleurs comme une transgression hein, par rapport aux conventions hein, du débat tel qu'on l'entend habituellement, parce qu'effectivement on voit très bien que d'ailleurs, c'est pour ça que la position de Calliclès n'est pas du tout la même que Socrate, celle de Socrate, parce que Calliclès, même s'il est choqué, il va dire « bon ben oui, l'homme qui se gratte est heureux, pourquoi ?» Parce qu'au fond, il ne veut pas perdre le débat. Il ne veut pas être pris en défaut dans le fait de soutenir sa thèse, parce que pour lui, un débat, hein, un débat rhétorique, parce que son modèle à lui, c'est celui de la rhétorique, un débat rhétorique, c'est un débat entre deux discours qui s'affrontent, et il y a un perdant et un gagnant. Alors que pour Socrate, ce n'est pas ça à discuter. Dialoguer, ce n'est pas ça. C'est
mais est-ce si sûr? Moi, je pense qu'il faut quand même poser la question. Calliclès fait très bien de dire à Socrate, tu es un démagogue, un orateur de foule. Il ne faut quand même pas oublier que l'ironie socratique, quoi qu'elle veuille atteindre cette vérité, il s'en sert contre ses adversaires. Ça reste pas seulement des interlocuteurs, ça reste des adversaires. Et on sent quand même que pousser Calliclès dans ses retranchements à la fois par amour du savoir, par esprit d'accoucheur des esprits, il y a aussi un côté provoquant qu'il retourne contre Calliclès. Il a aussi envie de gagner. Il y a une forme de joute oratoire que partage Socrate.
Oui, alors effectivement, bien sûr. Et d'ailleurs, le philosophe et le démagogue ont des points communs, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont chercher à emporter l'adhésion des personnes à qui ils s'adressent. Mais bon, alors là, on pourrait faire la distinction traditionnelle entre persuader et convaincre. Même si là, effectivement, on pourrait se demander si Socrate n'est pas basculé du côté de la persuasion, mais c'est pas tellement sûr parce que malgré tout, il y a une forme de vérité dans l'exemple qu'il amène, parce que c'est tout à fait dans la droite logique de la thèse de Calliclès, en fait.
Mais moi, je vous pose la question aussi, pas seulement pour qu'on retourne, qu'on accuse Socrate des mêmes vices, on va dire, que Calliclès, mais aussi parce que face à un tel texte, on peut avoir envie, dans sa copie, de s'engager aussi du côté de Calliclès. C'est-à-dire de dire, finalement, moi, la thèse de Calliclès, je la partage et je ne veux pas être du côté de Socrate qui détient la vérité et fait la morale en employant justement des exemples obscènes.
Oui, alors ça...
Est-ce que je serais complètement à côté de la plaque si je faisais ça?
Vous ressembleriez à beaucoup d'élèves, donc ça n'est, il faut pas, je veux dire, c'est une tendance spontanée, tout à fait compréhensible. On a envie de prendre position, mais c'est là où le travail philosophique, c'est aussi une discipline, c'est-à-dire que dans une explication de texte, il s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Hein, il s'agit d'analyser la logique des idées, comment Socrate en vient à défendre cette idée, comment Calliclès lui-même, enfin quels sont les fondements de la thèse de Calliclès, comment il la défend, quels sont les fondements de la critique de Socrate, comment il la défend, et après on peut apprécier effectivement la force, on va dire la force argumentative. Philosophique, conceptuel aussi, dans ce dialogue-là, de la confrontation entre les thèses, de chaque thèse. Bon, quand il n'y a qu'une seule thèse, on peut aussi apprécier la force de la thèse, y compris si on n'est pas d'accord avec. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé d'adhérer au côté moralisateur de Socrate pour quand même apprécier cette capacité à dévoiler, démasquer les tenants et les aboutissants de la thèse de Calliclès, parce que Calliclès, lui, ne les dévoile pas, enfin, même essaye de ne pas les dévoiler, les fondements de sa thèse. Et donc là, limite, qui pense quoi, c'est moins important que comment Socrate s'y prend pour amener Calliclès à devoir assumer les conséquences de sa thèse.
Et dans cette deuxième partie, c'est ce que fait du coup Socrate. Et on voit d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est comment il pointe ce glissement chez Calliclès entre agréable et heureux.
Oui.
Qui apparaissait déjà au départ, mais dans la bouche de Calliclès, mais entremêlé, c'était moins clair que ça, entre plaisir et bonheur. Et là, c'est très clair. Il le pousse à dire qu'une vie agréable, c'est une vie heureuse, et qu'il met sur au même niveau, il identifie bonheur et agréable.
Oui, effectivement. Parce que, en fait, là, la critique de Socrate, c'est une critique d'abord conceptuelle. Calliclès confond plaisir et bonheur. Or, on peut faire la distinction entre plaisir et bonheur. Déjà parce que, par définition, le bonheur, c'est un état de satisfaction, un état ou un sentiment. Ça dépend si on le définit de manière objective ou subjective. Mais en tout cas, de satisfaction durable, complète, solide, qui s'accompagne d'une certaine stabilité, bon, en tout cas dans la conception traditionnelle. Et le plaisir, au contraire, hein, c'est... C'est une satisfaction qui peut être très intense, mais qui généralement est considérée comme limitée dans le temps et qui n'est pas totale non plus, hein, qui est localisée. Donc ici, il y a peut-être une distinction conceptuelle à faire. Calliclès identifie toutes les formes de satisfaction et les intègre à cette définition du bonheur. Et donc là, il n'y a pas non plus de distinction entre tous les types de satisfaction selon leur origine. Par exemple, est-ce que je jouis par mon corps, par mon esprit? Est-ce que je jouis d'une action juste, d'une action injuste? Donc ça, c'est les autres thèmes du Gorgias. Est-ce que mon action est noble ou vulgaire? Donc évidemment, là, c'est l'idée de l'homme qui se gratte. Et puis aussi, peut-être, il y a des plaisirs qui ne sont peut-être pas totalement des plaisirs. Justement, c'est aussi l'intérêt de cet exemple de l'homme qui se gratte, parce que le propre du plaisir de se gratter, c'est que c'est en même temps un plaisir très irritant. Et tout en se grattant, on se soulage, mais en même temps, on se fait mal, en fait. Et
en fait, on se gratte pour se soulager. D'ailleurs, c'est le sens de l'extrait de Knock. C'est-à-dire que la personne se gratte, il voit un médecin parce qu'il se gratte.
Oui, absolument.
Pas par plaisir.
Et donc, cet exemple est intéressant parce qu'il montre aussi que le plaisir n'est pas forcément aussi monolithique que voudrait le défendre Calliclès, hein, et que il y a des plaisirs qui s'accompagnent de déplaisirs. Donc là, c'est l'exemple corporel, mais en fait, on pourrait très bien faire le même raisonnement avec les plaisirs de l'âme, de l'esprit, hein, et notamment avec la question de la justice et de la morale. C'est-à-dire que un plaisir pervers, comme vous disiez, un plaisir immoral, ne s'accompagne-t-il pas toujours de quelque chose de désagréable qui finalement fait plus de mal que de bien?
Finalement, il y a une distinction à la fois entre agréable et heureux, mais aussi une distinction dans les objets du plaisir, à savoir, on peut jouir de quelque chose qui finalement me fait mal. Ça va être l'alcool aussi, par exemple.
Absolument.
Ça peut être le tabac ou autre plaisir. D'ailleurs, on a même l'impression que tous les plaisirs finalement sont au final nocifs. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est intéressant à poser dans cette copie? Dire, mais finalement, le meilleur moyen de distinguer bonheur et plaisir, c'est que les plaisirs, souvent, vont contre le fait d'être bien avec soi-même, d'être en bonne santé, d'être intelligent, d'être... C'est-à-dire qu'on va facilement vers les plaisirs.
Oui, mais en fait, pas nécessairement, parce que tout dépend de l'usage des plaisirs. C'est-à-dire que Socrate ne va pas dire non plus qu'il y a une opposition radicale entre bonheur et plaisir. Et d'ailleurs, il y a des plaisirs comme le plaisir de penser, le plaisir de dialoguer, qui ne sont pas du tout à exclure, par exemple.
Mais n'as-tu pas honte, Socrate, de mener notre discussion vers ce genre d'horreur?
Parce que c'est moi qui l'ai poussé là, ô noble individu. N'est-ce pas plutôt celui qui affirme sans nuance que les hommes qui éprouvent la jouissance, de quelque façon qu'ils jouissent, sont des hommes heureux? N'est-ce pas plutôt celui qui ne peut pas distinguer quels sont les plaisirs bons et quels sont les mauvais?
Sophie Lavrant, on arrive au terme de cette explication de texte, surtout au terme de ce texte. Alors, la fin est très courte. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Le découpage de votre texte fait que le début est assez court, la fin est assez courte aussi. Et puis, il y a un cœur comme ça qui est assez coriace avec l'exemple de l'homme qui se gratte, qui peut être développé sur plusieurs pages. Est-ce que, effectivement, on doit plutôt suivre le texte que se dire, quand on découpe un texte, qu'il faut avoir une sorte d'équilibre entre les parties, entre les lignes?
Non, en fait, il faut vraiment suivre la logique du texte. Alors, il y a parfois plusieurs manières de découper un texte. Le plus important au niveau méthodologique, c'est que le découpage soit justifié. C'est-à-dire qu'on arrive à expliquer pourquoi on a découpé comme ça. Et effectivement, si on fait une division par trois et qu'on coupe au milieu, bon, évidemment, ça va se voir que c'est un découpage artificiel. Donc là, dans ce texte-là, effectivement, l'exemple de l'homme qui se gratte, il est central et il est très long. Après, ça ne veut pas dire... C'est pas parce qu'on a étudié un extrait court, un passage plus court, qu'on va avoir moins de choses à dire. Et puis après... Par ailleurs, si la troisième partie n'est pas aussi longue que la deuxième, c'est pas grave. Bon, il faut pas qu'elle fasse de ligne, quoi. Mais disons que la pensée, elle n'est pas toujours symétrique et
quantifiable.
Voilà, quantifiable. Donc l'important, c'est effectivement de respecter plus la logique du texte.
Et la logique du texte veut, en tout cas dans cette troisième partie, cette distinction capitale entre quels sont les bons plaisirs et les mauvais? Est-ce que c'est ça, en fait, la clé de ce troisième moment?
Oui, alors il y a deux clés de ce troisième moment. Il y a ce thème-là, effectivement, hein, la critique de Socrate. C'est là qu'on voit apparaître la thèse de Socrate, à savoir que ce qu'il reproche à Calliclès, c'est l'absence de nuance qu'il fait dans son approche des plaisirs, en particulier entre bon et mauvais plaisir. D'ailleurs, on peut se demander... c'est quoi un bon plaisir? C'est quoi
Oui, c'est ce qu'on se demandait juste avant. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'un plaisir est forcément bon parce qu'il procure ou par ses conséquences ou par...
Ou par ce que propose Socrate, qui est le seul indice qu'on a dans le texte. Donc je pense que c'est plutôt celui-là qu'on devrait suivre, c'est la façon de jouir. Hein, c'est-à-dire, quel que soit le plaisir, d'une certaine manière, ce qui compte, c'est la manière dont on en jouit. Et là, on peut faire plusieurs hypothèses. Évidemment, la première qui vient, et qui est sans doute la meilleure, c'est quelle est notre situation par rapport au plaisir? Est-ce qu'on en est le maître ou est-ce qu'on en est l'esclave? Et évidemment, ce que suggère Socrate, c'est que il y a des plaisirs dont on devient esclave et qui nous emportent, hein, et qui du coup peuvent nous entraîner. Et puis, au contraire, il y a des plaisirs dont on sait se rendre maître grâce à la raison. Donc là, on peut rappeler. Puis il y a aussi le critère moral, vraiment, pour le coup, qui là renvoie plutôt aux thématiques précédentes du dialogue. Si on les connaît, on peut le suggérer. Sinon, on peut essayer de le deviner. C'est la justice, c'est-à-dire le plaisir de l'homme injuste est un plaisir mauvais pour celui à qui il inflige son injustice, mais surtout pour lui-même, par exemple. Bon, ça, c'est un autre raisonnement. Mais finalement, on pourrait très bien le voir sur plein d'exemples. Effectivement, comme vous disiez, l'alcool, comment on peut se faire du mal à soi-même en recherchant le plaisir, par exemple. Et puis, le deuxième élément, moi, qui me frappe dans cette dernière partie, c'est l'indignation. Mais l'indignation de chaque interlocuteur. Et on a là deux indignations qui se répondent. Et on voit bien que Calliclès essaie de faire changer la honte de Kant en disant « Mais tu n'as pas honte, Socrate !» Alors qu'au départ, c'était lui qui affirmait ne pas avoir honte et ne pas être gêné. Et Socrate, en retour, lui dit « Mais non, c'est pas moi qui ai amené ces horreurs dans la discussion. » Et je trouve que c'est très intéressant de confronter ces deux réactions. Parce que finalement, on voit bien que ce qui choque Caliclès, c'est le procédé par lequel Socrate remet en question sa thèse, alors que, donc, on pourrait dire la forme. Hein, il n'a pas respecté la forme qu'on attendait du dialogue, où normalement il y a des choses qu'on ne dit pas parce que c'est choquant, etc. Alors que Socrate, lui, il est choqué par le contenu de la thèse de Caliclès, par le fond. Et on peut se poser la question, finalement, elle est où la plus grande violence, hein? Est-ce que c'est dans l'idée, une idée finalement agressive à l'égard du sens moral commun, mais qui serait exprimée de manière élégante, polissée, etc. Ou est-ce que la plus grande violence, c'est celle du philosophe qui propose un discours critique, dérangeant, qui cherche à mettre à jour les tenants et aboutissants des thèses immorales? Et effectivement, c'est une question ouverte.
Est-ce que cette question qui se pose en tout cas dans cette troisième partie, est-ce que c'est ce qui va vous mener aussi vers votre conclusion? Parce que je le signale, il vous reste 3 minutes pour conclure.
Oui, alors, bon, si vous voulez, pour la conclusion, il faut d'abord faire la synthèse des éléments clés. Donc là, par exemple, on peut dire que... Si la question des rapports entre bonheur, désir, plaisir et raison, c'est un peu un topos de la philosophie morale. Bah, le traitement qui lui est réservé par Platon ici ne manque pas de piquant. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, mais bon, on a envie d'en faire quand même avec l'homme qui se gratte. Donc c'est assez piquant. Hein, c'est assez.
Oui, il faut ressouligner quand même l'insolite de ce texte.
Voilà, exactement. Et Socrate, lui, il conduit un entretien qui ne suit pas les sentiers ordinaires de la discussion courtoise, tranquille, voilà. Et on voit bien la tension monter tout au long de la discussion, parce qu'il s'agit de pousser Caliclès dans ses retranchements pour voir jusqu'où celui-ci est prêt à assumer sans honte cette thèse hédoniste et amorale qu'il défend. Et donc le surgissement de la figure de l'homme qui se gratte au cœur de ce passage concentre à la fois l'originalité, l'ironie, et la vivacité de la démarche socratique en général, et de cet affrontement en particulier. Et si l'exaspération, voire l'indignation des deux interlocuteurs atteignent leur sommet à la fin de ce texte, c'est d'abord en raison des enjeux du débat. La question de la vie bonne, de la vie désirable, de la vie qu'il faut mener, c'est une des plus importantes au regard de celui qui se dit philosophe et au regard de Socrate, comme il le dira lui-même. Mais c'est aussi parce que ces deux personnages, qui défendent des positions radicalement opposées, incarnent, on pourrait dire, deux versions très différentes de ce qu'on pourrait appeler le politiquement incorrect ou la subversion. Caliclès, par sa conception décomplexée du bonheur comme assouvissement des désirs, sans considération morale, et puis de l'autre côté Socrate, par son refus de jouer le jeu du discours poli et balisé, et qui ose confronter son adversaire aux conséquences, selon lui, obscènes de sa thèse. Et l'intérêt de ce travail socratique, outre qu'il réaffirme contre le rapport immédiat au désir l'importance d'un usage maîtrisé des plaisirs, soumis à l'examen de la raison, ce travail socratique se manifeste surtout dans sa force critique et polémique. Et cette offensive contre ceux qui prétendent embrasser sans la moindre gêne des idées extrêmes illustre peut-être l'impossibilité de les démasquer dans le cours ordinaire d'une conversation policée.
Sur la banquette d'un autobus se pavanait une petite puce, lorsque soudain va s'asseoir sur elle un gros monsieur en bretelle. Elle se dit dans sa petite tête de petite puce, quel est donc cet olibrius? Je m'en vais lui démontrer comment une petite puce se défend en lui piquant son séant. Pendant ce temps-là, le monsieur qui lisait se dit mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai dans le dos? Qu'est-ce qui me pique le dos? Qu'est-ce qui me pique le dos? Le bas du dos. Sur la banquette de l'autobus se régalait la petite puce.
Merci beaucoup Sophie Laveron d'avoir expliqué pour nous cet extrait du Gorgias de Platon et puis d'avoir aussi suggéré cette chanson La Petite Puce de Sacha Distel en référence à l'homme qui se gratte, qu'on aura bien retenu dans cet extrait. J'en profite pour signaler qu'on pourra trouver en ligne sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie votre corrigé de ce texte. Et puis j'en profite aussi pour signaler que vous êtes l'auteur de Le concours des parties, critique de l'atomisme et redéfinition du singulier chez Spinoza. C'est votre thèse qui a été publiée aux éditions Classique Garnier.
Merci beaucoup.
Et un grand merci également à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Livia Garrigue, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Marianne Chassor, Adèle Vendrette bien sûr, Anne Pérez, Olivier Bétard et David Jacuboviez à la réalisation, ainsi qu'à Olivier Martineau et Romain de Bec de Lièvre à la lecture des textes aujourd'hui et à la prise de son cette semaine, Claire Levasseur.
La petite puce, quand leur serveur annonça aux gens qui descendirent en courant.
Les chemins de la philosophie, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour la suite et la fin de notre semaine spéciale Pâques Blanc en partenariat avec Le Monde Campus. Et demain, c'est la professeure Marie Perret, professeure au lycée Richelieu à Rueil-Malmaison, qui répondra à la question « Peut-on soutenir que la vérité n'existe pas ?» Mais d'ici demain, vous pouvez aussi réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie où vous pourrez la télécharger et la podcaster, mais où vous pourrez aussi y découvrir toutes les indications bibliographiques ou musicales de chaque émission et surtout les corrigés des explications de textes et dissertations proposées cette semaine. Et puis retrouvez-nous également, bien sûr, sur les comptes Facebook et Twitter des Chemins de la Philosophie. Vous écoutez France Culture, à 11h vous retrouverez Florian Delorme pour Culture Monde, mais dès maintenant, rendez-vous avec votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.